Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Bienvenue dans Les Rubis Noirs, l'émission dédiée aux cadres dirigeantes et aux intellectuels noirs afro-descendantes. Retrouvez-nous deux mercredis par mois à 18h sur Radio Campus Paris ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Le Rubis Noir du jour est journaliste comme moi, enfin presque, elle a la carte de presse, ce que je n'ai pas, ou pas encore. Présentatrice sur Europe 1, je reçois Fanny Marceau. Comment vas-tu, Fanny ?
Ça va, Estelle, et toi ? Merci beaucoup.
Merci.
Merci de me recevoir.
Alors, je parlais de carte de presse. Qu'est-ce que la carte de presse apporte en plus ?
C'est drôle que tu me parles de la carte de presse, parce que quand j'avais ton âge, c'était exactement mon obsession. Je voulais à tout prix avoir ma carte de presse. Et une fois que tu l'as, en vérité, tu te rends compte que c'est un sésame, bien sûr, mais tu t'y habitues, en vérité. C'est pas ça qui fait le journaliste, mais on en reparlera si tu veux. Qu'est-ce qu'elle apporte, la carte de presse ? Bah, déjà, elle confirme que tu es journaliste professionnel. Pour l'obtenir, il faut qu'au moins 50% de tes revenus proviennent d'une activité journalistique, que tu sois indépendant ou salarié d'un média. C'est pas forcément indispensable d'être salarié d'un média pour avoir la carte de presse. Les journalistes indépendants en ont aussi.
Okay.
Il faut l'obtenir auprès de la commission de la carte, qui, chaque année, te demande de faire une déclaration pour formuler ta demande. Quand tu es salarié, il y a la moitié des frais que tu dois payer pour l'obtenir qui sont pris en charge par ton entreprise. Quand tu es indépendant, bah, tu payes tout seul. Et en fait, quand tu es étudiant, alors j'ai plus le détail précis, mais quand tu es étudiant, il y a une période, ce qu'on appelle une période de stage, qui en vérité n'est pas une période de stage, parce que tu peux être salarié quelque part lorsque tu demandes ta carte de presse, mais c'est juste qu'en fait, tu es considéré comme véritablement journaliste professionnel, encarté, etc., au bout de 3 ans, sauf si tu sors d'une école reconnue par la profession, auquel cas cette période un peu bizarre est ramenée à 1 an. Mais en fait, au bout de ces 3 ans-là ou de cette année-là, quand tu sors d'une école reconnue par la profession, en tout cas c'était le cas à mon époque, je ne me suis plus penchée sur le sujet depuis, mais quand tu sors de cette période un peu particulière, normalement tu peux prétendre, me semble-t-il, à un salaire plus élevé parce que tu as une carte de presse. La carte de presse permet aussi d'avoir un salaire plus confortable.
Et la carte de presse permet-elle d'aller couvrir des événements ou aller faire des reportages à l'étranger dans des zones assez...
Bah, c'est pas forcément la carte de presse qui permet ça, mais par exemple, si tu veux aller couvrir une actualité, je sais pas, à l'Élysée ou dans des sites un peu sensibles comme ceux-là, qui sont assez particuliers et qui demandent une certaine forme de contrôle, il faut la carte de presse pour pouvoir y prétendre. Parce que ça fait partie de la façon dont on te recense. C'est un peu ta carte d'identité. Si tu veux rentrer dans un lieu prestigieux de la République ou dans un lieu très sécurisé, on va te demander de laisser ta carte d'identité à l'entrée.
Oui.
Bon, bah, c'est un peu la carte de presse, c'est la carte d'identité du journaliste. Et donc, si tu veux rentrer dans ces lieux-là, il faut pouvoir montrer patte blanche, ou en tout cas montrer ta carte de presse. Et c'est vrai qu'elle est indispensable pour ce genre de reportage-là. Pour le reste, je connais des journalistes de longue date qui sont là dans le métier depuis des années, qui ont fait des reportages un peu partout, qui ont voyagé à l'étranger, qui ont couvert des actualités, et qui pourtant n'ont jamais été encartés.
Ah bon ?
Mmh. C'est pas indispensable pour fonctionner, c'est juste plus pratique. Et en plus, ça fait des réductions pour aller au musée.
Voilà. Y a-t-il un ordre des journalistes ?
Non, on a une commission de la carte, et puis on a des syndicats, et puis on a l'ARCOM. Il y a différentes instances en fait, qui encadrent le travail journalistique, qui s'assurent qu'on fait bien notre travail, qu'on vérifie bien nos sources, etc. Il y a une charte aussi, une charte d'éthique, qui nous oblige quelque part, dès qu'on devient journaliste, on adhère même implicitement à cette charte, qui nous oblige à travailler de manière, avec des informations vérifiées, de manière honnête. Et ça fait partie du métier, mais on n'a pas d'instance particulière qui régisse le journalisme à proprement parler.
Alors, revenons aux sources. À quel moment tu t'es dit que tu voulais devenir journaliste ?
Quand j'étais gamine, je voulais être archéologue ou aventurière. C'est rigolo parce que mon fils, il a 9 ans et il veut faire exactement la même chose. À peu de choses près. Mais en fait, mon rêve, c'était d'être comme Sidney Fox. Alors, ça ne parle peut-être pas à ta génération. C'était un genre d'Indiana Jones au féminin. C'était une nana qui partait parcourir le monde, chercher des vieilles reliques. Elle était prof d'histoire à la fac, elle était super sexy, elle se bagarrait, elle était trop stylée. Et je rêvais d'être cette nana. Je me disais, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux ressembler à ça quand je serai adulte. Sauf qu'en fait, Sydney Fox, c'est un métier un peu particulier. Déjà, il faut savoir se bastonner. Moi, je ne sais pas me... La vie m'a montré que je n'étais pas faite pour ça. Je pense que je n'avais peut-être pas le côté aventurier suffisant. Et en fait, j'aimais écrire et j'aimais lire et je voulais parler au monde. Et donc, je me suis réorientée vers quelque chose qui correspondait à ces trois critères-là. Lire, écrire, parler au monde. Wow. C'est ce que je fais au quotidien.
Et j'ai vu que tu n'as fait qu'une licence en journalisme.
C'est rigolo que tu me dises qu'une licence, parce qu'à mon époque, c'était le max qu'on pouvait faire dans mon école de journalisme. Il n'y avait pas de master. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'écoles de journalisme, il n'y avait pas de master. Donc
Non, mais je te dis ça parce que de nos jours, il faut faire un master en journalisme, reconnu dans une école de journalisme, etc. Moi-même, je n'ai pas fait d'études de journalisme. Mais ce que je fais, c'est... On peut dire que c'est un peu du journalisme.
C'est du journalisme à partir du moment où tu interroges, tu t'intéresses, tu poses des questions et tu produis quelque chose qui est issu de cette interview et que tes sources sont vérifiées et que tu es dans une honnêteté de tes sources, quel que soit le sujet. En vérité, c'est du journalisme. On n'a pas besoin forcément d'une carte de presse pour en être un. Et on n'est pas non plus obligé d'avoir fait une école de journalisme pour être journaliste. Il y a des journalistes qui n'ont pas fait d'école, qui sortent de Sciences Po, par exemple. Ce n'est pas une école de journalisme, quand bien même il y a certaines spécialités. Il y a des journalistes qui n'ont même pas le bac. J'en connais qui n'ont pas le bac et qui sont d'une autre génération. Alors, moi, ma génération, t'es surprise qu'on ne faisait que des licences, mais les générations de mes parents, il y en a qui n'avaient pas le bac et qui atterrissaient là quand même un peu par hasard, quoi. Ils ont vu de la lumière, ils avaient une bonne façon de s'exprimer ou ils avaient une plume. Et ça suffisait pour aller couvrir l'actualité et pour prétendre au titre de journaliste. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société qui de plus en plus demande des diplômes,
oui.
Parce que ça permet aussi peut-être, je sais pas, de mieux choisir les plus performants, les plus diplômés, les meilleurs. Mais en vérité, ça n'a pas toujours été nécessaire. Et à mon époque, une licence suffisait. J'avais fait 2 années de prépa avant, donc ça faisait quand même un bac plus 5.
Hippocagne.
J'ai fait Hippocagne et Cagne. Hippocagne qui est la première année, Cagne qui est la deuxième année, qui est une prépa littéraire.
Ah oui, je savais pas que c'était ça.
Ben voilà.
C'est en Martinique.
Une prépa littéraire que j'ai faite en Martinique et en fait ça nous prépare à passer les concours d'école de journalisme, entre autres diplômes possibles. En fait c'est une prépa qui donc prépare à passer des diplômes, que ce soit passer des concours, que ce soit le concours d'école de journalisme, Sciences Po, le concours de l'ENA, c'est le principal qu'on est censé passer, ou le concours de prof par exemple pour devenir enseignant. J'ai pas mal de copines qui sont devenues enseignantes de cette époque, donc in fine, j'ai fait bac plus 5, 2 ans de prépa, 3 ans d'école de journalisme, et c'était largement suffisant.
Et on vous apprend à écrire, à enregistrer, je ne sais pas, interviewer
Alors, en école de journalisme, mon école, qui était l'ISCPA, Institut des médias de Paris, qui existe toujours, avait un cursus en 3 ans. Et donc, il y avait la première année qui était un peu générique, où on faisait des classes pour découvrir l'actualité, pour la comprendre, pour analyser l'actualité au quotidien. On avait aussi des cours d'histoire des religions, d'histoire des civilisations, d'histoire du journalisme, de droit, pas mal de cours en amphi comme ça. Et puis quelques ateliers aussi pour apprendre à écrire de manière un peu plus journalistique, parce que c'est vrai qu'on arrive persuadé qu'on a un talent certain pour l'écriture et puis très vite on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend de nous. C'est une écriture particulière, le titre, le chapeau, la façon dont on écrit pour un article. C'est pas la façon dont on écrit pour un livre, c'est pas la façon dont on écrit une lettre à ses potes. Il y a quand même un style particulier, c'est pas une rédaction d'école.
Oui.
Ça fonctionne pas pareil. Donc tout ça, il fallait l'apprendre. En deuxième année, on nous a appris à tenir une caméra, à parler dans un micro, à structurer nos journaux, etc.
Et toi, tu t'es tout de suite dit que c'était le journalisme audio, pas écrit, que tu voulais faire.
Alors moi,
est-ce que ça se dit comme ça déjà, journalisme écrit,
c'est journalisme radio. De la presse écrite.
Presse écrite.
Moi, quand je suis rentrée, je voulais faire de la presse écrite, je voulais bosser pour National Geographic. C'était vraiment ça, mon rêve absolu. Je voulais voyager, donc je gardais mon côté Sydney Fox. Et en même temps, j'écrivais et je racontais le monde, quoi. Parler, je pouvais le faire en posant des questions aux gens. Je n'étais pas forcée de parler dans un micro. Mon premier stage, je l'ai fait à Tropic FM, qui est une radio. Donc, j'ai découvert le micro, la radio, et j'ai trouvé ça fabuleux. Ensuite, j'ai bossé à RFI, où j'étais d'abord stagiaire, et puis je suis restée pigiste pendant quelques années. Et pareil, l'atmosphère du studio, c'était quelque chose de fabuleux. On bossait à l'époque à la maison de la radio. Moi, je trouvais cet endroit extraordinaire. Je me dis, waouh, je veux passer ma vie ici, je ne veux plus jamais quitter un studio. C'est fabuleux. Même juste l'écouter, le micro, avoir le casque sur les oreilles et s'entendre dans le micro, on ne s'entend pas pareil. Et je trouvais que c'était génial. C'est vraiment une expérience que j'ai adorée. Et puis après, j'ai découvert la télé en troisième année, parce qu'en fait, il fallait se spécialiser en troisième année. Et je me suis dit, j'ai déjà fait des stages en radio. La radio, je connais à peu près. La presse écrite, j'en suis un peu revenue. Vu que j'avais demandé un stage à National Geographic que je n'avais pas obtenu, ça m'avait un peu calmée. Et en fait, je me suis dit, je vais me spécialiser en télé pour savoir faire les trois médias.
Oui, oui.
Et comme ça, comme c'est le seul média que je ne maîtrise pas bien, si je me spécialise en télé, j'aurai au moins une chance, sur les trois médias que j'ai abordés, de trouver un boulot en sortant de là. Et donc, j'ai fait une spé télé, Télé News, en dernière année d'école de journalisme.
Trop bien.
Voilà.
Mais... Du coup, donc, tu es d'origine martiniquaise.
Et franc-comtoise, ouais.
Et franc-comtoise. comment ça s'est passé le passage de la Martinique à, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, la France.
À Paris, tout simplement.
À Paris,
parce que
oui.
La Martinique, c'est aussi la France.
Oui, oui.
Écoute, j'ai été journaliste en région pendant presque 10 ans. Un peu de Guyane et beaucoup de Martinique. J'ai fait de la télé, j'ai présenté les journaux télé, j'ai présenté des émissions. Après, j'ai fait les journaux radio avec des émissions en plus, etc. Et très vite, quand je suis arrivée à la radio, donc ça faisait à peu près 4 ans que j'étais revenue aux Antilles-Guyane, je suis allée à RCI, donc RCI Martinique, où j'ai présenté les journaux de 7 heures pendant 5 ans, à peu près, 4 ans et demi. Et très vite, je suis devenue correspondante pour l'AFP et Europe 1. Donc l'AFP, l'agence France Presse, qui est une agence de presse, comme son nom l'indique, qui alimente quelque part en information les médias français. Et pas que, médias étrangers aussi qui sont abonnés, mais tous les médias qui sont abonnés à l'agence France Presse reçoivent en continu toute la journée des dépêches. L'AFP a accès parfois à des interviews assez exclusives et surtout, l'AFP a un tel réseau dans le monde entier de journalistes qui sont positionnés partout dans le monde que très vite, quand une information tombe n'importe où dans le monde, le journaliste AFP sur place, le correspondant de l'AFP sur place, peut faire remonter à Paris et Paris, à ce moment-là, envoie à tous ses abonnés. C'est comme ça que fonctionne une agence de presse. Elle a la capacité, parce qu'elle est extrêmement bien dotée en journaliste, d'être extrêmement rapide et elle a des normes très strictes pour vérifier et valider une information. On ne balance pas une info à l'AFP comme ça, ça doit être très codifié. Et donc, moi, j'ai travaillé pour l'AFP, j'ai récupéré la correspondance de l'AFP en Martinique, puisque le correspondant précédent ne pouvait plus exercer. Et puis, dans la foulée, quelques mois plus tard, on a créé une correspondance Europe 1, et donc j'étais aussi correspondante d'Europe 1 en Martinique, donc je faisais les reportages radio pour Europe 1. Et c'est comme ça que j'ai touché du doigt la réalité nationale, au-delà de la réalité locale. Je proposais des reportages régulièrement à l'AFP et à Europe 1 pour parler de la Martinique sur des ondes nationales et envoyer à tous les médias. Par exemple, quand vous lisez le magazine Géo ou certains médias, ils reprennent tous des dépêches AFP. Vous verrez le même reportage partout.
Oui.
Et c'est le correspondant qui a écrit ce reportage. Donc ça pouvait être moi à l'époque. Et ensuite, je suis venue à Paris tenter les remplacements d'été qui sont une bonne porte d'entrée pour les journalistes qui ne sont pas à Paris ou qui veulent s'essayer à faire de l'antenne. Alors quand c'est pour de la télé, il faut passer un casting. Pour la radio, il faut certainement avoir des contacts préalables, je présume. Mais moi, j'étais correspondante, donc on m'a ouvert la porte.
Oui.
Et j'ai fait les remplacements d'été d'Europe 1, qui dans la foulée m'a embauchée. Je faisais aussi en même temps les remplacements d'été de BFM TV, où j'avais passé un casting pour pouvoir le faire, etc. Donc j'étais venue à l'été 2021 et je ne suis jamais repartie.
Mais toutes ces expériences que tu as pu réaliser, les stages ou même les jobs, on va dire, normaux.
Les CDI.
Ouais, les CDI. Mais c'est grâce à des rencontres, c'est parce que t'as insisté ou t'es partie toquer aux portes.
C'est des rencontres, de l'audace, de la persévérance. Il y a des fois où il faut se convaincre aussi, il faut se dire j'y vais, on a la trouille. Hein. Moi, quand j'ai fallu partir à Paris, j'avais peur. Je me suis dit, ça se trouve, je vais être ridicule, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, c'est n'importe quoi. Mais je partais avec une grande appréhension, mais une fois qu'on a franchi le pas, on y va. Donc, il faut montrer de quoi on est capable. Mais franchir le pas a été le plus difficile. Ça faisait des années que je me disais, je veux partir, essayer le national. Et en même temps, j'ai tellement peur de me planter, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Et à un moment, après le Covid, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu as à perdre ? Il faut y aller, il faut tenter. Donc j'ai tenté. Dans la vie, il ne faut jamais se limiter. Il faut se dire que tout est possible, au moins on aura essayé.
Oui.
Et donc j'ai essayé, ça a marché, ma foi, tant mieux. Mais c'est pareil pour tout, c'est postuler, c'est déjà une forme d'audace, postuler quelque part, dire bonjour, vous cherchez quelqu'un ou pas, mais moi je suis disponible et si ça vous intéresse, on peut faire affaire. Déjà une forme d'audace, c'est se dépasser soi-même, c'est se dire je vais tenter de convaincre les gens que j'ai ma place aussi. C'est pas simple, mais avec le temps, on a de plus en plus d'audace.
T'es déstressée, j'imagine, bien sûr.
J'étais nerveuse, bien sûr.
Après, le trac, il disparaît à force.
C'est surtout qu'avec le temps, mon métier, je le connais.
Oui.
Je sais ce que j'ai à faire. Et en fait, j'ai acquis une expérience en région qui est extraordinaire. Parce que quand vous êtes dans des petits médias, vous avez tendance à tout faire tout seul.
Oui.
Et à vous débrouiller avec les aléas du direct. Donc par exemple, quand j'ai passé le casting de BFM TV, c'était assez rigolo. Parce qu'on vous met en situation de si jamais il y a quelque chose qui ne va pas à l'antenne, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous paniquez ? Est-ce que vous buguez ? Mais moi, j'avais tellement l'habitude de gérer des imprévus à la télé quelques années plus tôt parce que mon prompteur tombait en panne tout le temps, que du coup, c'était presque naturel. J'avais pas cette difficulté-là. Et en fait, ça s'est passé assez bien. C'était plutôt rigolo. Et j'étais un peu nerveuse au début. Et quand j'ai compris à quel point, malgré moi, sans m'en rendre compte, je maîtrisais mon sujet, moi, je me suis dit, c'est bon, ça va aller.
Tout à l'heure, on parlait de correspondante.
Ouais.
Quelles sont les différences entre le métier de correspondante, pigiste, reporter d'image?
Alors, c'est pas des métiers différents.
Tout c'est, ça, c'est être journaliste.
C'est être journaliste de toute façon. Quand vous êtes pigiste, c'est un type de contrat. Donc, que vous soyez pigiste ou en CDI ou en CDD, vous faites le même métier. Vous n'avez juste pas le même type de contrat. Le pigiste, c'est celui qui va travailler soit à la journée, soit au reportage. Ça dépend des médias. Quand vous faites de la presse écrite, par exemple, on peut vous embaucher, on peut vous acheter un reportage précis. Donc, ça représente une pige. Et quand vous êtes à la radio, vous travaillez une journée, soit en reportage, soit à l'antenne. Vous avez beaucoup, beaucoup de journalistes. Je dirais peut-être pas la majorité, mais il y a énormément de journalistes en France qui sont pigistes. Le pigiste, c'est celui qui a une forme de liberté parce qu'il a la liberté de bosser pour plusieurs médias, d'aller venir dans un média, de dire je suis dispo ou je suis pas dispo tel jour. Il n'est pas réglé comme un salarié en CDI sur tu bosses de tel jour à tel jour la semaine, du lundi au vendredi, puis samedi, dimanche, t'es en week-end, etc. Il est vraiment assez libre, mais cette liberté, elle a un coût qui est très cher parce que c'est un contrat extrêmement précaire. Quand vous êtes pigiste, vous n'êtes pas sûr que demain vous aurez un boulot. Tu n'es pas sûr que la boîte avec laquelle tu bosses aujourd'hui, tu bosseras encore avec elle demain parce que peut-être que ça se passera mal et peut-être qu'elle ne voudra plus te voir et qu'elle ne t'appellera plus.
Oui.
Ou peut-être qu'elle aura trouvé mieux que toi et que donc elle ne t'appellera plus. Donc c'est un statut très précaire. On ne sait pas vraiment de quoi est fait demain, même si souvent les journalistes qui sont pigistes s'en sortent. Mais ce n'est pas toujours évident. Il y en a plein qui quittent le métier parce qu'ils peinent à trouver un contrat plus stable. Donc, mais pigiste, ça va être... un journaliste pigiste est un journaliste comme un journaliste en CDI. Et dans la réalité du journalisme, il y a effectivement plusieurs types de métiers, plusieurs approches. Le présentateur, ce n'est pas le journaliste de terrain. On n'a pas la même approche parce qu'on n'a pas les mêmes missions.
D'accord.
Moi, quand je faisais du terrain, je me levais le matin en basket parce que je ne sais pas où je vais atterrir et tu sais pas à quoi va ressembler ta journée. Tu te lèves le matin, tu arrives au bureau, on te donne un reportage à faire ou tu proposes un reportage qui est accepté. Tu pars sur le terrain. S'il se passe quelque chose de gros, tu sais pas, ta journée peut être extrêmement longue. Si on t'envoie pour la journée faire un reportage, j'en sais rien moi, dans une ferme, c'est marrant et tu reviens. Mais si entre-temps il y a une tempête et que finalement ton sujet se transforme en la tempête à la ferme, et du coup c'est pas le même délire. Et puis si en même temps on t'envoie, je sais pas moi, à l'Assemblée nationale pour la journée, ça sera pas non plus la même opération parce que c'est très long des fois les débats.
Oui.
Donc voilà, ta journée peut être totalement chamboulée d'une minute à l'autre, elle peut complètement varier, il peut se passer un truc très grave à l'autre bout du monde et on a besoin d'envoyer un reporter et c'est toi qui es là. T'étais pas prévu comme ça, mais bon, tu pars ce soir, donc tu rentres chez toi, tu fais ta valise et hop, tu repars pour le soir et tu sais pas quand tu reviens. Enfin,
oui,
c'est vraiment un boulot d'imprévu.
D'accord.
Quand on est à l'antenne, c'est beaucoup plus régulier. On sait qu'on est à l'antenne de telle à telle heure. Moi, mon journal, je sais que j'ai un journal à 5h, à 6h30, à 8h. Quelle que soit l'actualité qu'il y aura dedans, mes journaux seront les mêmes. C'est juste que je vais écrire des choses différentes et que mon approche sera différente. Mais mon horaire sera le même, je ne vais pas changer de journaux pour autant. Si jamais un jour il y avait un problème, on pourrait peut-être prolonger le journal pour compenser, mais c'est vraiment à la marge, c'est rien d'affolant. Donc c'est vraiment pas la même approche. Dans les deux cas, qu'on soit sur le terrain ou à l'antenne, il faut être extrêmement généraliste. Il faut être capable de parler de tout. Donc il faut s'intéresser à tout.
Oui. Faut être curieux.
Faut être curieux de tout. Et faut avoir une base de connaissances sur à peu près tous les sujets. Essayer de suivre un peu tous les sujets, surtout ceux qui font l'actualité ou qui vont la faire, et pas avoir peur de chercher des éléments complémentaires pour alimenter son reportage ou pour alimenter son lancement. Et après, pour ce qui est des chroniqueurs, c'est encore différent.
Oui, animateur, chroniqueur.
L'animateur n'est pas un journaliste.
C'est vrai ?
Il peut en être un. C'est-à-dire la différence entre un animateur et un anchorman, par exemple. L'anchorman à la radio, c'est celui qui est journaliste et qui va animer une tranche info.
Oui.
Dimitri Pavlenko, le matin, par exemple, avec moi, il est journaliste. C'est l'anchorman de la matinale. Donc, il est là de 7h à 9h et il a des réflexions journalistiques. Il échange avec les chroniqueurs. Il lance les reportages avec nous, les présentateurs de journaux, etc. Un animateur, comme tu vas en entendre sur une musicale, par exemple, sur Énergie, sur, je sais pas, Europe 2.
Oui.
C'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui est là pour mettre de l'ambiance, qui a une capacité très rapide à réagir et à intervenir, à mobiliser ses connaissances, notamment sur la musique, mais aussi sur les artistes qu'il va recevoir ou avec lesquels il va échanger, à mettre de l'humeur, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de rigolo, quelqu'un de... C'est pas du tout le même exercice, même s'il y a de plus en plus d'animateurs qui ont des compétences journalistiques, dans le sens où ils sont capables de mener une interview et d'apporter une info, par exemple, que ce soit les infos routes, la météo, ça fait partie des infos.
D'accord.
Voilà. Et puis pour le chroniqueur, alors un chroniqueur, ça peut être un journaliste qui vient sur un sujet précis, pour un temps donné, à ne pas confondre avec un éditorialiste.
Oui, il y a beaucoup de termes.
L'éditorialiste vient donner son avis. C'est souvent un journaliste, pas toujours, mais c'est souvent un journaliste qui vient donner son avis sur une actualité, donc c'est orienté. C'est-à-dire qu'il vient, il donne une opinion. Un journaliste n'est pas censé donner une opinion. La différence, elle est là. Le journaliste ne donne pas son opinion, le journaliste n'accepte pas de gens qui lui payent des trucs, de pots de vin, de choses comme ça. Le journaliste déclare quand on l'invite au restaurant, quand on paye pour lui quelque chose, parce qu'il faut qu'il soit en légalité vis-à-vis de son employeur ou vis-à-vis de la loi. Enfin, on a quand même des contraintes qui sont là pour nous forcer à être
neutre.
À être, alors, je dirais pas neutre, mais en tout cas objectif et en tout cas respectueux de nos engagements. Et c'est ce qui fait aussi que le journalisme est préservé et que les journalistes ne sont pas des influenceurs, les journalistes ne sont pas des... On est dans une espèce de bulle de protection pour que notre métier ne soit pas justement dévoyé et que celui qui va écouter le journal soit sûr que le journaliste qui a produit ces informations, qui les a révélées, n'ait pas été acheté par qui que ce soit.
Ah oui.
Voilà.
Oui. Il est temps de faire une pause musicale avec Nina Simone.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need
was a river. It was boiling and run to the sea. It was boiling and run to the sea. It was boiling all on them day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil.
Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
On est de retour avec Fanny Marceau, journaliste chez Europe 1. Alors Fanny, moi je n'ai pas fait d'études en journalisme. Comment je peux faire pour avoir une certaine crédibilité? Comment je pourrais faire, et surtout comment je pourrais faire pour progresser?
Alors, pour avoir une crédibilité et pour progresser, il faut pratiquer. C'est le meilleur moyen déjà d'avancer. La pratique, quand on est en école de journalisme, on n'apprend pas tout sur les bancs de l'école. Moi, j'ai appris énormément en stage. Mes stages m'ont permis de progresser énormément parce que c'est là qu'on peut faire de l'antenne, c'est là qu'on peut apprendre à moduler sa voix, c'est là qu'on peut apprendre tout ce que les journalistes savent et qu'ils ne nous disent pas forcément en classe parce qu'on n'a pas forcément le temps, il y a d'autres choses à perfectionner avant. Donc c'est confronté à la réalité qu'on donne le meilleur de soi-même et qu'on progresse le mieux.
Oui.
Moi j'ai progressé au fil de mes stages et de mes emplois, et ne serait-ce que quand j'écoute mes premiers reportages, je vois le chemin parcouru.
Faut lire beaucoup, faut s'entraîner. Alors, aussi à écrire.
Lire l'actualité permet d'avoir une connaissance pointue de l'actu, et c'est aussi une forme de crédibilité, parce que si jamais on fait un stage quelque part, il faut être en capacité de montrer qu'on peut savoir de quoi on parle. Donc c'est important de connaître les sujets, de lire les journaux un peu tous les jours, de lire des journaux différents, de sensibilités différentes. La Libération et le Figaro, par exemple, c'est assez complémentaire, ou Le Monde. Et on peut aussi éventuellement lire des journaux régionaux quand on a le temps. C'est important, parce que la presse régionale est essentielle. La presse nationale puise aussi souvent ses sujets dans la presse régionale. Ce sont des journalistes qui sont en région, donc qui sont forcément très près des différentes actualités que parfois nous on est obligé de traiter depuis Paris. Et les correspondants en région et les journalistes régionaux sont essentiels. Donc ces journaux-là sont aussi importants à lire. Ça c'est pour la crédibilité et la connaissance de ces sujets. Pour ce qui est de la pratique, le mieux c'est d'obtenir un stage, ça c'est pas mal, ou une alternance.
Oui.
Ça peut être très, très utile, parce qu'on ne progresse jamais aussi bien qu'au contact de ceux qui savent ce qu'ils font.
Oui. Juste pour revenir, quand tu as parlé des classes préparatoires tout à l'heure, comment on fait pour rentrer en classe préparatoire?
Les classes prépa, c'est sur dossier.
Sur dossier. C'est payant?
Non, ça dépend dans quel établissement on veut aller. Il y en a qui sont dans des établissements privés peut-être, mais moi c'était... En fait, après le bac, je pouvais soit aller à la fac, soit tenter la prépa. Et donc du coup, j'ai fait Hippocagne-Cagne parce que j'ai été prise sur dossier. Mais en fait, on est inscrit en double cursus. C'est-à-dire que pour que la prépa, nos deux années de prépa soient validées, il faut qu'on ait un dossier dans une université. Et c'est considéré comme les deux premières années d'une licence.
D'accord.
Logiquement, après la prépa, j'aurais dû aller en licence pour compléter cette licence-là et la finir.
Oui.
Et je me suis arrêtée à 2 ans de prépa et je suis passée sur autre chose.
D'accord.
En deuxième année, on vous demande de vous spécialiser. La première année est générique et la deuxième année, on se spécialise. Moi, j'avais choisi espagnol. Je ne suis pas une flèche en espagnol, mais j'avais choisi espagnol. Et donc, j'ai fait Hippocagne-Cagne validé en tant que bac plus 2 espagnol. Et normalement, j'aurais dû aller ensuite faire une année de fac en espagnol pour avoir une licence d'espagnol. Sauf que je ne l'ai pas fait, puisque j'ai passé les concours d'école de journalisme et j'ai obtenu celle que je voulais. Mais on peut poursuivre au campus comme ça. Mais en vérité, moi, je n'ai jamais été à la fac. J'ai été inscrite en fac,
oui,
parce que j'étais en prépa. Mais ma prépa, souvent les classes prépa se passent dans un lycée. Donc j'étais dans un lycée, dans un bâtiment spécifique réservé au bac plus, enfin ceux qui ont déjà eu le bac. Et du coup, j'ai fait 2 années de classe prépa au lycée de Bellevue en Martinique. à Fort-de-France. Et en même temps, j'étais inscrite donc à la fac pour valider mes crédits.
Ah,
mais
oui.
Je n'ai jamais mis un orteil à la fac.
Et est-ce que tu avais des proches qui étaient, je ne sais pas moi, journalistes? Est-ce que tu as vécu dans un milieu familial où les gens aussi ont fait des études? C'était important?
Mon père tenait à ce que je fasse des études. Donc, il m'a toujours poussée en ce sens. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien. Donc, je me suis donnée à fond pour ce que je voulais. Mais si j'avais décidé de faire autre chose, il m'aurait suivie aussi. Il n'y avait pas de prérequis. C'était pas journaliste à tout prix. C'est moi qui ai choisi mes affaires. Il m'a dit, tu le fais bien. Donc, tu vas au bout de tes études, tu te donnes à fond, etc. Et tu me lâches pas en cours de route. Tu le fais bien. Après, dans ma famille, il y avait déjà des journalistes, mais dont j'étais pas forcément très proche.
Oui.
J'ai une tante et un oncle qui tous deux étaient journalistes dans des médias totalement différents, l'un en presse écrite, l'autre à la télévision. Ma tante m'a quand même une fois reçue sur son plateau de télé. Elle présentait les journaux en Guyane. Et c'est la première fois de ma vie que je suis rentrée sur un plateau télé. Elle m'a fait m'asseoir dans un angle mort de la caméra sur le plateau pendant le journal. Donc j'ai assisté au journal sur le plateau.
Incroyable.
On
ne
m'a jamais vue, mais moi j'ai tout vu. Et j'avais trouvé cette expérience fabuleuse. Je devais être au collège, je crois. Et j'ai jamais oublié, je suis toujours restée très reconnaissante de cette opportunité.
Avec l'émergence des nouveaux médias portés par des créateurs indépendants comme moi, blogueurs, podcasteurs ou créateurs de contenu, comment tu perçois l'évolution du paysage médiatique et la place des nouveaux acteurs comme moi dans le paysage médiatique?
Il y a une grande diversité d'acteurs. Il y a ceux qui, sur les réseaux, vont donner leur avis et vont être considérés comme journalistes. Ça me pose problème parce que ce sont des éditorialistes, de fait. À partir du moment où on donne son avis, on n'est pas journaliste à proprement parler. Et il y a un abus de langage permanent sur le journaliste, et donc c'est un peu problématique, parce que quand vous ne pouvez pas identifier un métier, vous vous trompez forcément sur son objet, et donc vous portez un jugement qui n'est pas le bon sur ce que vous entendez de sa bouche.
Oui.
Quand vous pensez que quelqu'un est journaliste et qu'il donne son avis, vous pensez que tous les journalistes donnent leur avis, alors que ce n'est pas le cas.
Oui.
Donc c'est déjà problématique. Il y a cette espèce d'abus de langage qui me gêne un peu. Après, que ça se diversifie et que tout le monde s'intéresse à l'actualité, tant mieux. Mais le risque, c'est qu'on se laisse influencer par des personnes dont on confond le métier de journaliste ou de... Un podcasteur n'est pas forcément un journaliste. Quelqu'un qui pose des questions n'est pas forcément un journaliste. Oui. Ça peut être un intervieweur.
Oui.
Mais ce n'est pas forcément un journaliste.
Ah, un intervieweur, ce n'est pas forcément...
Mais mine de rien...
Mais c'est un travail journalistique, un interview.
Ceux que vous voyez à la télé le matin et qui mènent les interviews politiques sont des journalistes.
Oui.
Mais on peut poser des questions sans lettre.
Oui.
L'un n'empêche pas l'autre. De la même manière qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on peut faire sur YouTube ou sur Instagram, vous pouvez vous donner des airs de journaliste, ça ne veut pas dire que c'est un travail journalistique. Ça dépend de ce... Mais ce qui est embêtant, c'est la réception du public. C'est la façon dont le public, lui, conçoit ce qu'il voit. Si vous êtes sur un plateau télé et que vous posez des questions à quelqu'un, sur YouTube, par exemple, vous diffusez votre vidéo, on va considérer que vous êtes un journaliste parce que vous en reprenez tous les codes. Mais ce n'est pas parce que vous reprenez les codes que le travail qui est derrière est journalistique.
Oui. Et l'impact de l'intelligence artificielle, aura-t-il un impact, selon toi, dans quelques années, sur le métier de journaliste?
Moi, j'ai vu arriver les réseaux sociaux dans ce métier. J'ai vu à quel point les réseaux sociaux avaient déjà bousculé la façon dont on travaille. C'est-à-dire que les premières années d'explosion d'Instagram, etc., de Facebook, c'était devenu un sujet, un reportage, de démonter quelque chose, une fake news qui circulait sur les réseaux sociaux. On en était arrivé là, on avait trouvé ça ahurissant parce qu'on se disait on en est à démentir des rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux parce que les gens y croient tellement que c'est devenu une info de dire ce qui n'est pas une info. Et moi, je trouvais ça quand même assez ahurissant. Et je crains que l'intelligence artificielle n'aggrave le problème, parce qu'en vérité, elle donne tellement l'impression que c'est réel quand elle fait passer une fake news. Elle peut tellement tromper son monde. Les images peuvent tellement ressembler à la réalité. On le voit dans les propagandes des différents États, notamment ceux qui sont en guerre. On peut tellement se faire avoir facilement que même nous, ça nous met en difficulté. Il faut réussir à démêler le vrai du faux. C'est encore plus compliqué. Ça demande davantage de prudence, davantage de vérification des sources, davantage de croisement des sources. On voit à quel point une information, quand elle est ne serait-ce que sortie de son contexte ou qu'elle est replantée dans un autre lieu ou à une autre date, à quel point ça peut faire une catastrophe sur les réseaux sociaux. Les gens ont tendance tellement à croire tout ce qu'ils voient,
oui,
qu'il faut être tout le temps prudent et vraiment redoubler de vigilance avec l'intelligence artificielle. Donc c'est un défi pour nous.
Waouh. C'est quoi la journée type d'une journaliste comme toi ? Parce que alors, toi, tu fais les matinales.
Moi, je fais la matinale.
Donc, ça veut dire tous les jours, tu te lèves le matin à 5h, c'est ça ?
Non, 5h, je suis à l'antenne.
Ah, 5h.
5h, je suis à l'antenne. 4h, je suis devant mon ordinateur en train d'écrire. Non, le réveil sonne à 2h du matin pour moi. J'ai des collègues qui arrivent plus tôt encore, qui se lèvent à 1h du matin. Ça dépend aussi de la distance.
Moi, je pensais que les matinales, elles étaient enregistrées.
Ah, bah, pas du tout. Comment on fait pour avoir les dernières infos sinon ?
Oui, 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 c'est
non,
vrai.
Non, si on enregistre, on est totalement à la masse parce que l'actualité d'hier soir, c'est pas l'actualité de ce oui. matin. Il se passe des trucs dans la nuit. Oui. Donald Trump, il a dit des trucs dans la nuit. je sais pas, Vladimir Poutine est arrivé en Chine dans la nuit. Enfin, il se passe des trucs. Donc non, l'actualité de la veille n'est pas du tout l'actualité du matin. L'objectif, c'est d'avoir l'actu la plus fraîche possible. C'est comme si tu me disais que, je sais pas, le primeur, il va faire son marché 2 jours avant. Ça marche pas. Il faut qu'il y aille le matin même, oui, il va à Rungis, oui. Il ramène ses trucs frais du matin et t'es content quand tu les achètes. Bon, bah voilà. Le boulanger, il fabrique son pain dans la nuit. Il le oui. fabrique pas 2 jours avant, sinon c'est rassis. Bah, c'est pareil pour l'info.
Okay.
Il faut que ce soit frais. Extrêmement frais. Et donc, non, les journaux se font. Moi, j'écris mon journal, j'ai 1h30 pour l'écrire. J'ai 1h30 entre chaque journaux. Avec un petit flash au milieu, donc j'ai un peu moins d'une heure et demie pour écrire mes journaux. Je suis l'AFP, donc qui déroule les informations qui arrivent au compte-gouttes. Et dès que j'ai une info nouvelle, j'actualise mon lancement. Ce qui fait que le journal de 5 heures n'est pas le même que le journal de 6 heures et demie. L'actualité peut avoir évolué entre-temps.
Ah oui.
Donc non, c'est un boulot, on est sur le qui-vive en permanence. Donc je me lève à 2h30 du matin, je lis les journaux qui sont tombés déjà dans la nuit. Parisien, Figaro, Le Monde. Le Monde, c'était la veille, hier après-midi, enfin l'après-midi précédent. Donc, je regarde s'il y a des nouvelles dépêches qui ont été publiées dans la nuit. Ensuite, il faut garder tout ça bien en tête pour pouvoir bâtir l'actualité telle que.
Non, mais tu peux écrire. Tu l'écris.
Oui, je garde des notes, mais des fois, je fais autre chose en même temps, donc j'ai pas le temps de prendre des notes. Je lis en même temps que je me prépare à partir. Donc,
Tu
lis en te brossant les dents, tu lis en te coiffant, tu lis. Et puis ensuite, il faut garder bien tout ça en tête et l'adapter en fonction de ce qu'on a, nous, comme actualité, comme reportage. Il faut arriver au bureau, il faut écouter les reportages du jour que nos collègues nous ont laissés la veille au soir. On écrit les journaux, donc on a à peu près une heure entre chaque journal. Et puis, je termine à 8h, donc je fais les journaux de 5h, 6h30 et 8h sur Europe 1. Ça fait 5 saisons que je fais ça.
Wow.
Et ça fait 9 ans que je fais des matinales, parce que j'en faisais déjà en Martinique avant.
Toi, t'aimes bien les matinales, tu veux pas faire...
Ah non, mais moi j'aime dormir en fait, hein, donc c'était pas du tout mon projet au départ.
Ah.
J'ai atterri là un peu par hasard. J'ai vu de la lumière un matin tôt, je suis entrée, et j'ai pas réussi à en partir. La matinale, c'est assez addictif comme truc.
C'est vrai ?
Ouais, parce qu'en vérité, c'est un peu le même effet que le 20h à la télé.
Oui.
À la radio, la matinale, c'est le moment privilégié où l'auditeur a le temps de t'écouter. Tu oui. l'accompagnes dans sa journée, dans sa préparation.
Oui.
Et c'est le moment où il y a le plus d'auditeurs. L'habitude des gens, c'est plus d'écouter la radio le matin. Donc, si on te propose la matinale, c'est qu'on te fait confiance. Et oui. puis, c'est une ambiance particulière. Tu es un peu tout seul dans le bureau à ce moment-là. Tu as une petite équipe avec toi, mais ce n'est pas les grosses équipes de la journée.
Oui, oui, oui.
Tu croises quasiment personne. C'est un peu une bulle. Et c'est assez, ouais, c'est assez addictif.
Est-ce que tu as déjà eu des quicks sur Europe 1 ? Des imprévus. Vraiment hyper stressant. Par exemple, là, moi, tu vois, je n'ai pas de réalisateur.
Non, alors j'ai pas eu de problème de réalisateur, mais on a déjà eu des moments qui posent problème, mais je me souviens pas précisément de grands moments de stress, parce que c'est des choses que tu apprends à gérer aussi avec le temps. Ça plante, et ben on va se rattraper comme on peut. Ça me s'est arrivé par exemple dans les journaux qu'on lance pas le bon reportage. Tu annonces quelque chose, t'écris un lancement sur un sujet donné, tu lances un journaliste, et en vrai derrière on te passe totalement autre chose. Soit du même journaliste, soit d'un autre, qui n'a rien à voir. Il y a eu une grosse plantade quelque part. Bon, écoute, tu reprends l'antenne, tu dis alors on va pas parler de ce sujet tout de suite. Et en fait, il faut meubler pour laisser le temps au réalisateur de charger le bon reportage. Donc il faut reparler un peu dessus. Et puis, c'est des trucs que tu apprends à gérer. Ça sert à rien de paniquer. On le dit souvent entre nous, mais ce n'est que de la radio. on n'opère pas des gens à cœur ouvert, on sauve pas le monde, je suis pas Superman.
Oui, c'est vrai,
on se
mais...
On contente simplement de donner des infos, on est des humains, les gens le savent.
Oui.
Et donc une fois que c'est admis, une fois que nous on l'a intégré, qu'on n'est pas des surhommes, des surfemmes, et qu'on est simplement des gens qui essayons de donner de l'info, on est beaucoup plus détendu avec le sujet.
Est-ce qu'on vit bien financièrement quand on est journaliste?
Ça dépend du contrat qu'on a, ça dépend si on est pigiste, ça dépend si on est en CDI, ça dépend dans quelle boîte on bosse.
Mais toi, les personnes dans ton cas?
On est moins bien payé quand on est en région que quand on est au national,
oui.
Par exemple. Et il y a encore des radios nationales qui, par exemple, seraient sur le même plan qu'Europe 1, qui payent moins bien ou mieux.
Oui.
Ça dépend vraiment du média, ça dépend des grilles de salaire que le média choisit. C'est vraiment à la discrétion de chaque boîte. Et encore, dans la même boîte, on peut avoir des gens qui font le même métier qui ne sont pas payés pareil, parce qu'ils n'ont pas négocié pareil.
Oh.
C'est la particularité du privé. Ça.
Et à l'heure actuelle, tu fais plus de presse écrite?
Non, ces dernières années. Alors, chaque année, je participe, mais c'est bénévole. J'écris dans le magazine des Amazones.
Ah.
Les Amazones, c'est une association et une fédération maintenant, mais ce sont des associations qui sont dans chaque territoire d'outre-mer, presque tous, et qui accompagne les femmes qui sont atteintes de cancer. Et j'en suis membre depuis sa création quasiment en 2017, et j'écris dans le magazine depuis 4 ans à peu près, qu'on sort chaque année et qui permet à l'association de renflouer les caisses. Et c'est franchement un beau magazine, donc c'est un bonheur d'écrire dedans, ça me prend toutes mes vacances, mais je suis contente de le faire. Voilà.
Alors, en termes de, comment dire, d'obstacles, en tant que femme... afro-descendante, je ne sais pas si tu viens d'un milieu modeste, aisé.
Non, un milieu aisé, oui, correct. En tout cas, j'ai manqué de rien.
Ok. Est-ce que tu as été confrontée à certaines choses dans le milieu du journalisme? Du sexisme, du racisme, le syndrome de l'imposteur?
Non, en fait, je...
Ou le fait qu'on te dise « Ah oui, mais t'es arrivée là parce que tu connais telle personne ». Parce qu'il y a ça aussi.
Pour le coup, je suis pas arrivée parce que je connaissais quelqu'un, je me suis débrouillée et les rencontres ont peut-être facilité les choses pour avoir un contact.
Oui.
Mais une fois qu'on a le contact, il faut le convaincre. Et c'est pas la personne qui va convaincre mon contact à ma place. Donc, c'est chacun se débrouille. Non, j'ai le sentiment d'avoir mérité ma place parce que je me suis débrouillée pour l'obtenir et j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir. J'ai toujours fait en sorte d'avoir un parcours irréprochable, ou en tout cas qu'on ne puisse pas me dire que tu as eu parce que tel ou tel. Vraiment, je me suis débrouillée de sorte de ne rien devoir à personne.
Oui.
Et quand bien même je suis reconnaissante envers ceux qui m'ont tendu la main à un instant T ou qui m'ont aidée, mais je n'ai pas le sentiment d'être redevable à qui que ce soit. Et c'est important d'avoir l'esprit suffisamment léger et libre pour se dire j'avance, je trace ma route. Et je trace ma route en étant reconnaissante pour quand on m'a fait un marchepied, on n'était pas obligé, mais de ne pas être là à devoir des choses parce que je me serais corrompue moi-même. Donc ça, c'était important. Après, est-ce que j'ai essuyé du racisme ou du sexisme? Je crois que ça ne m'a pas marquée outre mesure. J'ai toujours mis un point d'honneur à être suffisamment libre et debout derrière ce que je pense et ce que je suis pour pouvoir dire aux gens ce que je pense et ce que je suis. Donc j'ai jamais fermé ma bouche si on m'avait dit quelque chose de problématique.
D'accord.
Chaque fois que j'ai pu être confrontée à ce genre de situation, j'ai tout de suite dit à la personne qu'il fallait qu'elle se calme et qu'il fallait qu'elle me respecte parce qu'on n'allait pas s'entendre. Donc il faut oser, mais toujours respectueusement.
Oui.
La seule chose que je me suis imposée, et ça c'est quelque chose que j'ai construit et qui n'était pas inné chez moi parce que j'étais peut-être un peu sanguine, c'était de me forcer à rester calme. Et je me suis forcée à rester calme pour deux raisons. Je me suis dit, t'es une femme noire, ça veut dire que t'es une femme, donc si tu pètes un plomb sur quelqu'un et que tu hausses le ton et on va te prendre pour une hystérique, on va dire elle a ses règles, on va dire c'est une folle, etc., comme on a souvent tendance à le faire pour les femmes. Et je me suis dit, t'es noire, on peut très bien te dire, ah, mais ces gens-là, ils ont le sang chaud, regarde-les, ils s'énervent pour pas grand-chose, ils s'agitent dans tous les sens, ils n'ont qu'une tenue, etc.
Oui.
Il était hors de question que je me plie à des clichés qui n'ont pas de fondement.
Oui.
Et donc, je voulais absolument qu'on puisse m'entendre et me respecter telle que je suis. Donc, je me suis imposée de dire les choses calmement, mais fermement, pour que jamais on ne puisse m'opposer que j'aurais j'obéirais à des clichés qui faciliteraient grandement les choses pour mon interlocuteur. Je ne voulais pas lui donner le bâton pour me battre, il était hors de question que je laisse faire ce genre de choses. Donc je me suis imposée, en prévention, d'être toujours calme. Mais c'est pas toujours facile.
Ah oui, j'imagine.
Il y a des jours où on a vraiment envie de péter un plomb.
Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ah, franchement, ça me gonfle, quoi, je veux...
Oui, mais j'essaie de...
Je veux partir ou je sais pas.
Bah, j'essaie, en général, quand ça se passe pas bien avec quelqu'un, j'essaie généralement de m'en écarter. Je vais péter mon plomb dans mon coin et puis après, je règle les choses. Mais c'est pas toujours facile. Hein. Dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Oui. Je parle de manière générale. Hein. C'est une règle que j'essaie de m'imposer dans mon quotidien, pas que au travail.
Oui.
Et c'est pas toujours évident.
Alors Fanny, nous arrivons au terme de cet échange. 52 minutes.
Je parle beaucoup, pardon.
Non, mais c'est très, très bien.
C'est une caractéristique journalistique, faut être un peu bavard quand même.
Est-ce que tu pourrais donner des conseils à des jeunes femmes, des jeunes hommes afrodescendants qui souhaiteraient donc travailler dans le milieu journalistique ?
Moi, je pense qu'il ne faut jamais rien s'interdire. C'est ma philosophie de vie, je ne m'interdis rien. J'écris des bouquins, je fais de la musique, je suis journaliste, je fais ce que je veux parce que la vie est trop courte pour se mettre des barrières. Et il faut oser, et si parfois il faut écrire comme tu l'as fait d'ailleurs, à des personnalités qu'on admire, qui parfois ont envie de nous tendre la main, parfois sont d'accord d'être un peu nos paramarins
dans le métier. Juste ce que j'ai aimé, c'est que toi, tu étais... Direct, je t'ai envoyé un mail.
Bah oui.
Direct, t'étais ok, tu m'as pas fait attendre
non,
des
parce
jours
que,
et des jours.
Mais parce qu'on
je sais pas, je sais.
On sait ou on sait pas ce qu'on veut.
Oui.
C'est quand je reçois quelque chose, je sais si oui ou si non. Je sais si je peux, si je peux pas, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, si j'ai envie, si j'ai pas envie, je sais. Donc, c'était pas la peine de traîner 1000 ans. Mais il faut oser. C'est l'audace qui fait qu'on avance.
Oui.
Il faut avoir de l'audace, il faut se donner les moyens et surtout écouter ce qu'on nous dit. Quand on vous dit non pour une raison précise et qu'on vous dit non parce que tu n'es pas assez ci ou pas assez ça, il faut travailler sur ces failles pour avancer.
Oui.
Il ne faut jamais penser que tout est acquis, mais il ne faut rien s'interdire.
Fanny, tu viens de publier un livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, il s'appelle « Moi, Jenny, pupille de la Nation ». Je l'ai publié aux éditions Fayard. Et il raconte l'enfance de ma maman en Martinique dans les années 60, dans une famille d'accueil de l'ADAS. Donc c'est l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, c'est les services sociaux. Sa mère était malade, donc du coup, il a fallu la placer avec ses frères et sœurs dans une famille d'accueil qui était... vraiment affreuse et dans laquelle elle a été maltraitée pendant 8 ans avec son frère et sa sœur. Et donc je raconte cette histoire à deux voix, la mienne et la sienne. Et je raconte, elle raconte comment elle a grandi, enfin quelles épreuves elle a traversées. Et moi, j'amène du contexte et j'explique aussi comment j'ai grandi avec son histoire. Parce que mine de rien, les traumatismes de nos parents sont un peu des héritages pour nous. On grandit avec, on se forge avec. Et ma mère a réussi, malgré le traumatisme, à être une maman exceptionnelle. Elle a mis fin à la malédiction, comme m'ont dit certains, et c'est vrai. Elle a brisé la malédiction, elle n'a pas reproduit ce qu'elle a reçu, et c'était beaucoup de courage. Donc c'est à ce courage-là que je rends hommage, à cette force solaire qu'elle a aujourd'hui encore et qui lui a permis de dépasser sa souffrance pour être une mère aimante.
Ça t'a mis combien de temps à écrire ce livre ?
Je lui ai fait la promesse que j'écrirais il y a 30 ans. J'ai travaillé dessus ces 10 dernières années de manière un peu éparse. Et puis, je m'y suis mise à fond il y a 3 ans. Il a fallu 1 an pour le publier. Donc, j'ai vraiment tout donné en 2 ans. Et même en quelques mois, d'ailleurs. C'était essentiel pour moi de le finir pour qu'elle puisse le lire. J'avais la hantise qu'il lui arrive quelque chose avant. Donc là, c'est bon. Elle est là, elle l'a lu, elle l'a validé. Il lui a fait beaucoup de bien, ce livre. Et il l'a vraiment soulagé de ses souffrances et de ses traumatismes. Et donc, c'est ma petite fierté.
Merci à toi, Fanny,
avec
pour
plaisir.
Ces très bons conseils. J'espère que cette conversation vous aura inspiré, motivé et donné des pistes de réflexion. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, @lesrubisnoires, ainsi que sur YouTube, @EstelleKeita. Merci, merci à vous de m'avoir suivi pour cette saison. Je vous embrasse. J'espère que je pourrai faire une 4e saison. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements, merci pour vos conseils. Ça a été un plaisir de pouvoir enregistrer mes différents épisodes durant cette saison, de rencontrer des profils incroyables. Je vous embrasse et à la prochaine, peut-être. Bisous.